Ici. Non, je sais pas.
ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. יעקב a vécu en Égypte 17 ans. ויהי ימי יעקב שני חייו, et donc les jours de Yaakov, les années de sa vie, c'est Sheva Shanim ve Arbaim Umeat Shana. 7 ans et 40 et 100 ans. Donc 147 ans. Alors, vous savez probablement que Rashi va s'arrêter sur le fait que la paracha l'estouma. Alors on va voir ce que l'on dit. Mais ce qui est intéressant, c'est que la Torah, elle a donné l'âge de Yaakov, mais elle n'a pas dit Vayi yeme Yaakov Sheva Shanim ve Arbaim Umeat Shana. Mais elle a dit, elle a ajouté Shne Chayav. On a inséré Shne Chayav au milieu. Pour indiquer que toutes les années de vie de Yaakov étaient des années pleinement vivantes. Ce qui est la caractéristique, c'était le cas déjà chez Sarah Imenu. La caractéristique des Avot, l'Imaot, c'est que leur temps est plein. Ils sont Baba Yamim, ils viennent avec la totalité de leurs jours. Par opposition à nous, enfin aux autres, qui n'ont pas justement des années pleines, en fait. Au sens où on a vécu, mais les années, elles n'ont pas été rentabilisées, si vous voulez. On n'a pas produit chaque jour quelque chose de nouveau et de valable. C'est une première chose. Alors regardez Rashi. Lama parchazus touma. Pourquoi cette paracha est touma? C'est-à-dire qu'en général, dans la Torah, dans Sefer Torah, il y a au moins l'espace de 9 lettres entre deux parchiot. Mais entre Vaïgash et Vaïchi, ici, il n'y a aucun espace. C'est comme si on était dans la même parasha, continue d'écrire. Et alors Rashi dit, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Parce que Kivan, chez Niftar Yaakov Avinu, parce que dans cette parasha Yaakov Avinu, donc, est mort, quoi. Et alors, Nistemu Eneihem Velibam chez Israël. Les yeux et les cœurs des Bnei Israël se sont fermés. Pourquoi? Ils sont fermés parce que Mitzarat Hashivud chez Itrilu le Shabdam, à cause de la souffrance de l'esclavage, puisqu'ils ont commencé à les mettre en esclavage. Il y a une suite dans Rashi, mais d'abord, regardons un peu ce qu'il nous dit là. D'abord, il faudrait comprendre pourquoi l'écriture du Sefer Torah reflète la situation des Bnei Israël à ce moment-là. Il dit que parce que les yeux et les cœurs des Bnei se sont fermés, alors la paracha est fermée. Pourquoi est-ce qu'un Sefer Torah doit refléter la situation des Bnei Israël? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici? Ça vient bien entendu dire qu'il y a une unité tellement forte, une union tellement forte entre le clan Israël et la Torah, que la paracha ne peut pas être autrement que stouma si le cœur et les yeux des Bnei Israël sont fermés. Ça doit se refléter dans la Torah. Parce que c'est la même chose, d'une certaine manière. C'est la même chose, comme on dit, Oraita v'Israël Chadou. Que la Torah et le clan Israël, c'est une seule et même chose. Ça veut dire que le clan Israël est un Sefer Torah. Et en vérité, on a des exemples dans Chazal, où on utilise, où le Chazal disent que un Talmid Chacham, c'est un Sefer Torah vivant. La fameuse remarque de Rava, qui voyant les gens se lever devant le Sefer Torah, le rouleau, et qui ne se lève pas devant les Talmid Chachamim, dit ces gens-là, ils se lèvent devant un Sefer Torah qui est mort, quoi. Et ils ne se lèvent pas devant un Sefer Torah vivant. Donc, évidemment, ce qui va se jouer, se trouver dans le clan Israël, va se retrouver dans le texte de la Torah. Alors, on pourrait se demander, est-ce qu'il en va de même dans la Torah chez Baal Peh, alors ? Ça veut dire, les développements de la Torah chez Baal Peh, est-ce qu'ils sont aussi, d'une certaine manière, révélateur de la situation du clan Israël au moment où ces développements ont été faits. Alors, il y a beaucoup de gens qui expliquent Pirkei Avot en mettant en rapport l'enseignement de Chachamim qui sont cités avec l'époque dans laquelle ils vivaient. Celui-là, il parle de cette chose-là parce qu'à son époque, c'était de ça qu'il fallait parler parce que c'était ça le problème de la génération. Ce qui fait que, ça voudrait dire, que, si vous voulez, que la Torah qu'on développerait aujourd'hui, que dans le clan Israël on développerait aujourd'hui, elle reflèterait la situation du clan Israël aujourd'hui. La Torah orale reflète, si on dit comme ça. Alors c'est juste une indication pour réfléchir. Elle est fermée au sens, elle n'est pas ouverte pour elle-même, elle a pas il n'y a pas d'air entre Vaïgash.
Elle se suit, donc en fait il n'y a pas de séparation. Donc.
Justement, c'est ça. Mais tous les autres parchiotes sont séparés. Alors, il y a toujours au moins.
Sont un début et une fin,
elles sont fermées. Oui, celle-là, elle n'a pas de début, donc. Oui, elle a une fin parce que c'est la fin du Sefer Bereshit, mais elle n'a pas de début.
On pourrait presque dire que si à chaque génération. Il y a une expérience nouvelle des Bnei Israël. Dans ces conditions, ils peuvent avoir une lecture nouvelle. Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'une lecture totale de la Torah ? C'est une lecture de toutes les générations qui se souviennent les unes des autres en arrivant à la fin de l'histoire.
Oui, oui. Oui, oui c'est un peu de ça que. Un peu dans cette direction-là que je pensais qu'il faut développer ce que je vous ai dit. Mais je ne veux pas le faire maintenant. Non, non, non. C'est les chapitres qui sont découpés.
Mais
je suis
là, mais je sens. Enfin, si vous continuez.
Je vais continuer, oui, vas-y.
Vous comparez avec Sarah, mais dans Sarah, on commence par les centaines, les dizaines, et après les années, et là, on fait l'inverse. Il y a une info là, quelque part, ou... de ne pas prendre dans le même ordre.
Enfin, en réalité, c'est pas exactement comme chez Sarah, parce qu'il n'y a pas autant de fois Shana que. On n'a pas été d'Oresh chaque période comme telle.
Mais c'est, enfin, je
ne
sais pas, quand vous donnez un chiffre, vous
ne
dites jamais.
Non, dans la Torah, si, des fois, quand on parle. Tu regardes les dénombrements, tu verras que souvent c'est dit de cette manière-là.
Ouais.
Même les âges aussi, dans Bereshit, c'est dit souvent de cette manière-là. Donc ça, c'est une première chose. Et le Rashi continue. Alors, premièrement, excusez-moi, mais il y a un petit problème. Ici, Rashi dit qu'avec la mort de Yaakov, l'esclavage a commencé. On sait très bien qu'il n'a pas commencé à ce moment-là. L'esclavage n'a commencé qu'après la mort de tous les fils de Yaakov. Donc ce que Rashi veut dire ici, ça ne peut pas être pris de cette manière-là, en tout cas à la lettre. Donc il faut dire probablement que dès la mort de Yaakov Avinu, il y a déjà un chiboud qui était peut-être pas physique, un esclavage pas physique, mais un esclavage spirituel. C'est-à-dire quelque part, la pression de la société, la civilisation égyptienne, qui était quand même la civilisation dominante à ce moment-là, la pression de la société, la civilisation égyptienne, elle s'est faite très très lourde, et il n'y avait plus Yaakov pour en quelque sorte servir de paratonnerre, enfin, ou de d'écran de protection.
Il y avait ses 12 fils.
Pardon ?
Il y avait ses 12 fils.
Oui, justement. Mais les fils, c'est pas Yaakov.
Mais Yosef, il avait existé tout seul.
Alors c'est comme ça que...
Un instant. Vous aurez tous eu la parole. Oui ?
Yosef, quand il était tout seul, il avait tenu le choc.
Oui. Lui, il avait tenu le choc parce que peut-être que l'image de son père, etc. C'est pas qu'ils se sont assimilés à ce moment-là, mais ça a commencé à peser. Ils avaient du mal, probablement parce que c'est ce que Rashi dit. Rashi dit que ils ont commencé à être réduits en esclavage alors qu'ils ne l'ont pas été. Donc, Yaakov les a obligés à se tenir à longue sortie. Et donc là, c'est probablement ça que le Rambam qui dit qu'on n'échappe pas à son milieu. Quand on a Yaakov Avinu, alors lui, il était tellement fort qu'il a tenu tout le monde. Et on peut dire aussi que peut-être que Yosef aurait pu le faire, mais les frères n'étaient probablement pas du tout disposés à se mettre sous le patronage de Yosef. Il était le roi, ok, bon, d'accord. Mais spirituellement, ils n'allaient pas se mettre sous sa protection. Ils pensaient qu'ils en savaient autant que lui, ou qu'ils avaient autant de raisons de décider ou de réfléchir que lui. C'est une première chose. Oui, Khan, vous voulez dire quelque chose ?
Peut-être précisément, c'est l'embaumement d'Yaakov qui traduit le début de cette sorte de poids terrible de l'Égypte sur nous. Parce que c'est pas de chez nous d'embaumer comme ça, et la Torah insiste beaucoup là-dessus.
Oui, c'est déjà des méthodes d'embaumement égyptiennes, mais qui ont peut-être permis justement le transport de Yaakov de façon à ce que il soit transportable. Sinon, tel quel, peut-être que c'était extrêmement difficile d'imaginer qu'on le transporte. Il n'était pas réduit. Il n'est pas. Ben ouais, c'est pas mal. 40 jours probablement en plein soleil, en plein désert, etc.
C'est précisément une mort des Égyptiens ou des Goyes en général qui attendent très longtemps avant d'enterrer, alors que chez nous, normalement, on traîne le moins qu'on peut.
Justement, ben là, si on était obligé, il fallait embaumer, et donc ils ont dû attendre que l'embaumement qui prend du temps soit fait. Rashi continue. D'avoir à faire autre chose. Shebikesh legalot et aketz lebanav venistam mimenu. Il a voulu dévoiler le terme de l'histoire à ses fils, et ce terme qu'il voyait, quand il a envisagé de le dévoiler, il ne l'a plus vu. Ça s'est fermé pour lui. Donc il y a eu une fermeture. Donc la fermeture de la paracha, elle indique la fermeture de la prophétie de Yaakov portant sur la fin des temps, sur le terme lui-même. Il va rester prophète, puisque on va parler de, à ce moment-là, il va quand même bénir tous ses frères, ses fils, et il va leur dévoiler ce qui va leur arriver à la fin des temps, d'une certaine manière. Mais il va pas dévoiler le quête lui-même, le terme lui-même.
Ce Shabbat, on a vu qu'il y avait des prophéties qu'on était autorisé à dévoiler et d'autres pour lesquelles on n'était pas.
Oui.
Et chaque Navi, il avait l'info en même temps de la prophétie. Voilà, les portes de la Nevoie se sont fermées, alors qu'on aurait pu simplement, enfin Hachem aurait pu lui donner la Nevoie en lui disant, ne le dis pas. C'était une belle question. Alors pourquoi indiquer le fait qu'on ne lui donne pas la prophétie?
Peut-être qu'il avait le droit, mais Hachem ne voulait pas qu'il le fasse. Le droit, il a peut-être le droit. Il faut encore savoir, être bien sûr que c'était par prophétie qu'il le savait. Peut-être qu'il le savait d'une autre manière. On ne dit pas comment il avait accès, lui, au Ketz. D'où il savait quand est le Ketz. Va écrivez-vous. Donc, la tête de chapitre, c'est, voilà, il va vivre 147 ans. Il l'aura vécu 147 ans. Maintenant, on revient en arrière, et on est avant la mort, évidemment. D'accord. On a annoncé la mort, en annonçant la durée de vie, de sa vie, et maintenant, on revient en arrière. Va écrivez vous, aimez Israël Lamout. Donc, on va se situer dans la tranche de vie, la dernière tranche de vie de la vie de Yaakov, qui est appelé ici, Yémé Israël Lamout. Donc Israël va mourir. Vaikra Livno le Yosef. Alors il appelle son fils, il appelle Yosef. Pourquoi c'est nécessaire de dire que Yosef était son fils? Ça fait un certain temps qu'on le sait. Vaikra le Yosef. Visiblement, s'il Livno le Yosef, Rashi dit, le Mishaya Yocholet Beyado Laasot. Il aurait pu appeler lequel de ses fils. Donc en fait, pour ce qu'il demandait, n'importe lequel des fils aurait été adéquat, sauf que Yosef était le seul à avoir le pouvoir. Demander à ses fils de l'enterrer, il pouvait le demander à n'importe lequel, de charge-toi de, il faut bien dire, ils se débrouilleront bien tous. Non, il faut en charger un qui va faire le travail. Mais il l'a demandé à Yosef, parce que Yosef avait le pouvoir, c'est ça que Rashi veut dire.
C'était aussi le fils qu'il préférait.
Oui, mais ici, c'est. Ben, là, si vous lisez Vaikra Livno, il a appelé son fils. On a l'impression qu'il n'en a qu'un seul. C'est pour aller dans votre sens. Ça veut dire que, comme si d'une certaine manière, voilà, ben, c'est le fils. C'est vrai, c'est le fils qu'il préférait. Et c'est à lui qu'il va le. Il va le demander à lui. C'est juste, mais c'est intéressant parce que on dit ici, Rashi dit, il a voulu être mégalé le quête, il n'a pas pu. Si vous avancez au début de Revilly, même tête, Aleph, 49.1, Fassouk dit, Vaikra Yaakov el Banav, Yaakov a appelé ses fils. Vayomer, il leur a dit, Hé Asfou, rassemblez-vous. Vagid alachem, et je vais vous dire, Et asher yikra etchem b'achrit hayamim. Je vais vous dire ce qui va vous arriver à la fin des temps. Donc on voit clairement que Yaakov connaissait très bien le Ketz, et qu'il n'a pas. Il n'a pas reçu d'interdit de le dire, parce que sinon, il ne serait même pas commencé. Donc il a le droit, parce que la façon dont il l'a appris le lui permet, ou bien qu'il ne lui a pas été dit, ou peut-être même qu'on lui a dit, en réalité, tu pourrais le dévoiler, mais peut-être que les ministres, entre-temps, ont évolué, et tout à coup, Hachem ne veut pas qu'il le dévoile. je sais pas dire. En tout cas, hein, ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui va se passer, comment ça va arriver qu'il va pas pouvoir, l'istalka shrina, la shrina s'en va. Bon, certains disent que c'est l'istalka shrina. Dans Rashi, c'est marqué mistav mimenu, ça a été fermé pour lui. On a l'impression qu'il n'y avait plus accès. Quelque chose s'est fermé et il n'a plus accès à ce qu'est.
Quand
oui, mais après il l'a retrouvé, quand il est revenu, Vaïchi, Vatri, Ruach. Donc il a retrouvé justement cette nevoa, ce Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que quelque part, quelqu'un qui a accès à Ruach HaKodesh et qui en est privé pendant si longtemps, ça n'aurait pas, enfin, ça n'a, ce qu'on dit ici, c'est, ce que tu fais remarquer très bien, ça n'a pas affecté la qualité de sa vie, quoi. On ne va pas dire qu'il a survécu pendant tout ce temps-là et qu'il n'a pas vraiment vécu. Si on lit que Shnei Chayav veut dire qu'effectivement, sa vie était, toutes les années étaient parfaitement vivantes, alors effectivement on est obligé de dire ça. Alors, le Emek Davar, il va dans ce sens-là. Le Emek Davar dit sur Vahi Yeme Yaakov Shnei Chayav, il dit Eina Lachon Medugdak. Il dit le Lachon, il n'est pas très clair ici, il n'est pas exact. On aurait dû écrire Vahi Yeme Shnei Chaye Yaakov. On aurait dû dire Yeme Shnei Chaye Yaakov. Les années, les jours des années de la vie de Yaakov. Et la mashmaout yeme kan, ici le mot yamim, le yeme Yaakov, dit le Netziv, il dit, c'est khalifut azmanim. Ça indique justement des changements dans le temps. Ça indique que, shenishtane arbe, shel Yaakov, venitapech mitova le ra'a, que la vie justement de Yaakov, elle a beaucoup bougé. Elle était très agréable, après elle a été insupportable, de nouveau très agréable, insupportable. Il a eu des époques comme ça. Kamashmaout amikra, ou Yama yekra, il apporte un appui dans le pasuk de Tehilim. Le khalifut azmanim, ça veut dire, lorsque il y a un défilé, un changement des époques, à un moment c'est bien, à un moment c'est moins bien, à un moment c'est comme ci, comme ça. Et le verset vient nous raconter que tous ces changements dans la qualité, dans le genre de vie de Yaakov, tout ça c'était Bishnei Chayav, c'était de son vivant, c'est-à-dire on a l'impression qu'il a vécu, donc ce qu'il veut dire lui, c'est comme s'il avait vécu bien plus longtemps que les 147 années, parce qu'il a eu une telle richesse de vie, expérimenté de tellement de situations, que c'est pratiquement équivalent à plusieurs plusieurs vies, quoi, plus de vies que 147 ans. Alors, maintenant, pourquoi dans le verset Kaftes, c'est marqué « Vaïkrevou, Yémé Israël » C'est marqué, on venait de dire « Vaïkri Yaakov ». Pourquoi tout à coup, au deuxième verset, il s'appelle Israël ? Alors, le natif dit « Ba'asher lo irgish choli vechalishut » Étant donné que il n'a pas ressenti de maladie ou de faiblesse, donc il n'a aucune indication qu'il est à la fin de sa vie, parce qu'il n'est pas en train de s'affaiblir, et il n'est pas malade. Puisqu'on va dire, plus bas on va dire qu'on a dit à Yosef, « Hine avicha chole ». Le mot « hine » il indique toujours quelque chose de radicalement nouveau. Et on lui dit, Hine, avicha chole, ça t'est jamais produit. Voici que ton père est malade. Il n'a jamais été malade. C'est la première fois qu'il est malade. Mais voir, chez Kodem Leze, loya chole. Alors maintenant, en fait, c'est en tant qu'Israël, dit-il, qu'il a une indication comme quoi il arrive à la fin de sa vie. Et donc, il appelle immédiatement Yosef. Il n'est pas encore une fois, il n'a pas de signe avant-coureur parce qu'il est, se rapproche du terme. S'il calcule que il va vivre comme ses, comme son père. Son père, il a vécu combien de temps ?
180.
La voix d'outre-tombe.
C'est pas si bien dire.
Ouais. Oui. C'est écrit hein, dans la Torah que Yitzhak Avinu a vécu ça. Combien de temps est-ce qu'Abraham Avinu a vécu ?
75.
Pardon ?
75.
Ça, moins 5, oui. Il a perdu 5 ans pour ne pas voir Esav mal tourner. Hachem l'a retiré de la circulation pour qu'il ne voit pas son petit-fils mal tourner. Mais lui, donc, s'il avait, il s'attendait à vivre 180, 175, à 147, il est encore loin du compte. Il n'est pas 147, même s'il est à 145 ou 6, je ne sais pas.
Mais on va voir Pharaon la semaine dernière, on dit qu'il donne son âge parce qu'il fait plus vieux. Il se sent plus vieux, quoi.
Bon, c'est...
avec les épreuves qu'il a eues.
Et alors il l'appelle et il lui dit Imna matzatichen benecha. S'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est un père qui parle à son fils, mais son fils est roi. Simna, vous voyez, un deuxième na, imna, s'il te plaît, simna, yantra tachatirichi, mets ta main sous ma hanche, en fait, ben, si, donc jure, c'est un serment, jure que tu me feras reselver, met, al na, troisième fois. S'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Donc trois fois il lui demande s'il te plaît dans la même phrase quasiment. Alors, d'habitude, on dit que c'est une. Quand on, il lui a dit de mettre la main sous sa hanche, c'est la même façon, de la même façon qu'Avraham Avinu avait dit à Eliezer aussi de faire la même chose. D'ordinaire, on dit qu'en réalité, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il existe une shvoa. Il y a une notion de serment. Et puis quand on veut mettre plus de... Un serment, c'est quoi? C'est je dis quelque chose et je mets le poids de mon respect et du respect qu'ont les gens autour de moi d'Hachem. Quelque part, c'est je prends... Je dis... ce que je vous dis est aussi vrai que Hachem est vrai. Ça, c'est un serment. Et puis, on peut faire plus fort. Il y a ce qu'on appelle une shvoa avec Nekitat Chefetz. On peut prendre un Sefer Torah, par exemple. On sort un Sefer Torah, on le met dans les mains de celui qui va jurer, on lui dit « jure ». Et donc, il jure avec encore plus, je veux dire, toute la symbolique du Sefer Torah. Et on peut prendre n'importe quelle mitzvah, et eux, ils prenaient la mila. Ici, quand il dit « sous ma hanche », mais en fait, ce qu'il veut dire, c'est que tu prends la mila comme signe, de, tu prends la mitzvah, en quelque sorte, tu prends le poids de la mitzvah pour jurer. Ça, c'est ce qu'on dit tout le temps, et c'est écrit à plusieurs endroits, mais le Netziv, il avait déjà expliqué là-bas qu'il ne s'agit pas d'une choua. Ah, c'est que mot kritat brit chez Ben Adam Lachavero. Chez Aminag Liten Yad al Yad, Kilshon Amikra, Ine Natan Yad, Avalav Imbeno, Ve Adon Imavdo, En Derech Eretz, Lassot, Lashvot Yad, Le Yad, Alken Nagu, Le Aniach Hayad, Tachat Ayerech. Lui dit, c'est pas un serment, c'est une alliance. Et l'habitude, il dit que l'habitude était, il importe en pasouk, que quand les gens faisaient une alliance, ils mettaient une main sur l'autre, quoi. On peut dire, ben, ils serraient peut-être la main, ou enfin, c'est pas comme ça, ils mettaient une main sur l'autre. Alors seulement, quand c'est une alliance entre un père et un fils, une main sur l'autre, c'est quand on est égaux. Mais entre un père et un fils, un maître et son esclave, comme c'était le cas chez Abraham Avinu avec Eliezer, convenables, ils ne peuvent pas être mis à égalité. Donc il lui dit, mets ta main sous ma cuisse en fait. Quelque part, ça veut dire, on fait une alliance, c'est-à-dire, on pèse, un pèse sur l'autre, quoi, c'est en fait, c'est ça que ça veut dire. Seulement, ils ne vont pas faire peser la main de l'un sur la main de l'autre, mais la cuisse de l'un sur la main de l'autre. Là, c'est ce que dit le Netziv. La plupart des autres expliquent que c'était l'équita trefes, c'est une choua avec un objet. Donc les Yémé Israël se rapprochent de la mort. C'est un peu curieux l'expression. Vaïkrevou, Yémé Israël Lamout. Comme si c'était les jours qui allaient mourir. Bon. Ils se sont rapprochés, Lamout. Sur Simna Yerer dont on a parlé, Rashi dit clairement, le choix, Veïshava, et jure. Cette expression de Yemei Israël Lamout, c'est un peu compliqué. Alors, c'est une question qui est posée dans le Zohar. Le Zohar, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? D'habitude, c'est l'homme qui s'approche de la mort, et ce ne sont pas les jours qui s'approchent de la mort. Et le Zohar répond, Kasher Adam niftar min haolam, que lorsqu'un homme meurt, Mevi'im et kol yamav lifnei HaKadosh Baruch Hu, on amène tous ses jours devant HaKadosh Baruch Hu. V'udan otam, et Hachem les juge. La question est de savoir, Haim hem hayu mele'im b'avodat Hachem, ou Bechiyut Amitit. Est-ce qu'ils étaient pleins du service d'Hachem? Est-ce qu'ils étaient pleins d'une vraie vie? Nimtsa, il se trouve donc, Sheim Mila et Yamav Karaoui, que s'il a rempli ses jours comme il le faut, Azayamim Atzmam Le Karvi Motola Olamaba. Donc les jours eux-mêmes l'amènent au Olamaba. Et c'est ça le niveau de Yaakov. Va écrivez-vous, Yeme Israël Lamout, c'est-à-dire Ayamim Atzmam Kervu Le Olamaba. Lamout, ça veut dire ici Le Olamaba, dit le Zohar. Et donc c'est les jours qui amènent au Olamaba. Les jours d'Israël l'ont amené au Olamaba parce qu'ils étaient pleins. Vous voyez, on retrouve ici dans ce Zohar une indication sur laquelle on avait déjà parlé, c'est que, il dit, comment on le juge? Est-ce que les jours étaient pleins b'avodat Hashem ou b'chiyut amitit? Est-ce que les jours étaient pleins de service d'Hashem et d'une vraie vie? Quand on juge, nous, on aurait l'impression, on va juger si on fait des fautes ou pas de fautes. Ici, on ne parle pas de faute. Est-ce que les jours sont pleins ou pas? Vous vous souvenez, on avait dit que quand Acher, dans son trip avec Rabbi Akiva et les autres, Benzoma, quand il arrivait en haut, il a vu que Métatron était assis et il écrivait les mérites du clan Israël. Et c'est ce qui a fait que il a craqué, parce qu'il a vu que Métatron, c'est l'ange qui est préposé à diriger le monde, il était assis. Quand on est assis, ça veut dire qu'on est plein pied, on est chez soi. Quand vous recevez quelqu'un chez vous, quand vous voulez le mettre à l'aide, vous dites, asseyez-vous. Et vous ne pouvez pas entrer chez quelqu'un et s'asseoir, sans que vous ayez été invité à vous asseoir. Ça ne se fait pas. Et donc, si Métatron était assis, ici, c'est qu'il a donc le droit de s'asseoir. Il est assis. Donc, il a un pouvoir. Donc, il a pensé, qui est-ce qui a le droit d'être assis là? Donc, c'est qu'il y aurait une double divinité. C'est ça qui a induit Acher en erreur. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler maintenant. Qu'est-ce qu'il écrit, Métatron? Il écrit les mérites du clan Israël. C'est ça le jugement, les mérites du clan Israël. Mais si on veut juger, il faut écrire les mérites et les démérites, non? Vous vous souvenez, on avait dit qu'en réalité, le mal qu'Hachem a créé, le mal, il existe dans notre monde. Il existe un petit peu plus haut aussi. Mais si on va bien plus haut, le mal n'existe pas. Le mal, il a été créé seulement pour donner aux hommes la possibilité de choisir, pour que quand les hommes font ce qu'Hachem demande qu'ils fassent, qu'ils ne soient pas des robots. Donc il faut qu'il y ait un Yetzara, il faut qu'il y ait le mal qui les incite à ne pas faire ce qu'Hachem a demandé. Mais en haut, ce qui compte, c'est uniquement si on a fait ce qu'Hachem a demandé. Le mal qu'on a fait, il existe, mais pas sous forme de mal. Il existe sous forme d'absence de bien. Imaginez, on va mettre sur, dans un graphique, on va mettre les jours où on a bien... qu'on a bien rempli, on va les mettre au-dessus de la ligne, et puis ceux qu'on a mal remplis, on a fait du mal, on va les mettre en dessous de la ligne. Mais maintenant, si on dit que dans le monde d'en haut, on ne l'utilise pas du tout, il n'y a pas de mal, donc tout ce qui est en dessous de la ligne sera au niveau zéro. Ça ne va pas quand même compter comme du bien. Et donc ça va être une absence de bien. Pendant ce temps-là, tu n'as pas fait de bien. Et le Gaon de Vilna explique que quelqu'un qui... Alors, quand on juge quelqu'un, il doit donner din vecheshbon. C'est-à-dire, en fait, on va le juger pour ce qu'il a fait, mais il y a aussi un cheshbon, il y a aussi un décompte. Qu'est-ce que c'est le décompte ? Ben, le décompte, c'est ça. Le décompte, c'est le bien que tu n'as pas fait pendant que tu faisais du mal. C'est le mal, en tant que tel, il n'a pas une vraie réalité, donc ce n'est pas tellement grave. Mais ce qui est ultra grave, c'est que pendant ce temps-là, tu ne faisais pas de bien. Et ça, ça va manquer. Bon, puisque pendant ce temps-là, de 4 à 5, quand tu étais en train de braquer la banque, tu n'étais pas en train de l'emmener à ce moment-là. Sauf si tu l'emmènes en même temps. Mais... Donc, tu n'étais pas en train d'étudier. Et donc, ça, cette période-là, elle manque. Elle n'a pas été remplie, cette période-là. Donc, ce qu'on dit ici, si ses jours sont pleins, ça veut dire qu'il a rempli tous les jours. Il n'y a pas eu de... L'accent n'étant pas mis sur le fait qu'il n'a pas fait d'averot, ou que s'il a fait des averot, il les a réparés par tchouva, etc. Ce qui fait que, bon, ça a été réparé. Éventuellement, même si tchouva me'ava s'est retourné complètement en mitzvah.
Ne fait pas,
ce résultat négatif, il existe comme tel, mais on compte pas là. Le résultat, si quelqu'un il l'a tué, quelqu'un d'autre, l'autre il est mort, même s'il fait tchouva, il va pas ressusciter, ça se saurait.
Mais c'est dur de dire que je vais compter ce moment où il a tué comme une absence de une absence.
C'est de... ça qui, en vérité, c'est ça qui est important. Imagine un type, je ne veux pas être m'achevé, mais il y a des gens, qui étaient, disons, dans des camps de concentration, de travail, etc. C'est des grands fumeurs. Et il y en a certains qui sont arrivés à vendre leur pain pour avoir des cigarettes. Donc pendant qu'ils fumaient leurs cigarettes, ils ne mangeaient pas de pain. Alors, tu me diras, bon, alors, il y a le fait qu'ils se sont enfumés les poumons. Mais en notre temps, ils n'ont pas non plus rempli leur corps, donné à leur corps la nourriture qu'il aura besoin pour pouvoir travailler demain. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il ne va pas pouvoir travailler demain, parce qu'il n'a pas donné à manger. Alors, il y a le fait qu'il a abîmé ses poumons, etc. C'est pas pour ça que ce n'est pas exactement mon exemple, mais en termes de donner à son corps les moyens de... Il s'est fait du mal, mais surtout, il ne s'est pas fait de bien. Si je considère que l'important c'était de manger, on va avoir des forces parce que l'autre ne donne pas, bon ben ça il ne l'a pas fait, c'était l'essentiel. Et donc d'après ça, ça veut dire que il a regardé si les jours étaient pleins. Et c'est comme ça qu'il était jugé.
Pourtant, avec de nombreux passages où il est dit que toute une vie de mitzvot, etc., est détruite par une seule mauvaise action. Et que l'individu concerné perd son lavabo.
Bon, c'est possible que le poids, parce que c'est pas dit que ça soit en heure, mais peut-être que le poids, effectivement, d'une mauvaise action, en termes de l'absence de bien laisse une trace qui est telle que le reste du bien, en quelque sorte, fait plus le poids. Par exemple, si on dit, on considérera, disons, par exemple, un jour plein comme un jour dans lequel il y a eu la majorité du temps qui a été consacré à l'étude, disons comme ça, à l'étude au mitzvot. Alors maintenant, nous, on ne connaît pas la valeur des choses. Mais si la Gemara, elle dit ça, elle veut dire par là que peut-être que l'absence de bien durant le laps de temps qu'a pris la Avera ne va pas être comptée seulement une absence de bien de une heure, puisqu'elle a fait la Avera pendant une heure. Mais peut-être c'est l'absence de bien, comme c'est marqué que mitzvah, goret, mitzvah, etc. Bon, alors il y a toutes sortes de choses qui ne se sont pas faites, et tout ça c'est peut-être sur le mode de l'absence. Et à ce moment-là, peut-être que ça annule. Ça fait que le jour en question, les mitzvot, elles n'ont plus leur poids, parce qu'elles sont d'une certaine manière annulées par le vide qui les a accompagnées dans toute cette journée. Ou alors c'est une autre façon de regarder les choses.
Il tue très vite, mais en fait ce sont des milliers de mitzvot que la victime ne pourra pas, ou que les enfants et les enfants de la victime ne pourront pas faire.
Quand tu vas tuer quelqu'un, tu veux dire?
Ah oui. Non, ce sont un nombre incalculable de belles actions, de dures.
Oui, c'est ce qu'Hachem a dit à Caïn, il lui a dit, Dmei Achicha, le sang de tous les descendants de Hevel. Ce qu'ils auraient pu faire, tout ça, c'est tout ça, et ça crie vers moi. Et toi, tu dis, je ne suis pas le gardien de mon frère. Alors, il lui dit, jure-moi donc que tu ne vas pas me... Jure ou promets-moi que tu ne m'enterreras pas en Mitzraï. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être enterré en Mitzraï? C'est important d'être enterré ici ou là. C'est toute la terre d'Hachem, non? Parfait. Rashi dit, Sofa liot afara kinim. Veshein metechutz laaretz, im el abetzar gilgul mechilot. Veshelo yasuni mitzraim avodat elilim. Et, dernière chose, que les Égyptiens ne fassent pas de moi un culte idolâtre. Donc, ils pensent que les Égyptiens sont susceptibles de le diviniser. C'est-à-dire, il craint pas que ses enfants le divinisent par la suite. Il pense pas que les Bnei Israël vont faire de lui une idole.
Mais qu'est-ce qui pourrait pousser les Égyptiens
Parce que comme ils ont d'abord vu la grandeur du bonhomme, qu'ensuite il est le père du nourricier de la nation, de l'Égypte, et puis bon, ils ne sont pas à une divinité près. S'il ne s'agit peut-être pas de lui donner, peut-être il aurait été le 57e sur la liste et dans le panthéon égyptien, si jamais il avait existé.
Et leur ami?
Ouais. Qui est-ce qui a dit ça? Non, c'est pas Kahn. Qui est-ce qui a parlé, là?
C'est moi, en fait.
C'est vous quand même, oui. Ouais, ouais. Depuis que j'ai commencé ce Rashi, là, je me suis dit combien de temps il va tenir avant de nous envoyer ça. Bon, vous avez une question, c'est une question. C'était une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée.
Pourquoi vous dites qu'il a peur d'être divinisé par...
parce que ses enfants aussi pourraient le diviniser. Un personnage tellement grand, on peut aussi considérer que, quelque part, on peut le diviniser, on pourrait le diviniser aussi. Dans toutes les civilisations, probablement un bonhomme comme ça, il aurait été divinisé. Qui?
Je sais pas, son père et son grand-père.
Oui, non, mais...
Il était
lui, il y a
Yaakov... Il avait ses enfants.
Yaakov Avinu, il a... Il n'est pas du tout dans la même situation que Yitzhak. Yitzhak, il n'a qu'un seul fils qui va dans le bon sens. Donc, mais là-bas, il y a toutes les tendances, il va y avoir les petits-enfants, etc. C'est pas du tout sûr que.
Tu as un parent qui.
Oui, pour un qui va très bien mal tourner, je veux dire. Il voulait aussi diviniser Moshe Rabbeinu simplement. Si vous voulez, la notion de Adam Gadol, un grand homme, qu'est-ce que c'est qu'un grand homme? Le Rav Volbey rapporte à cet endroit-là, Rabbi Yochanan, il avait un élève. Cet élève, il a mal parlé un jour, il a utilisé des expressions qui n'étaient pas tellement convenables, et pas de tzniout. Rabbi Yochanan ben Brachia l'a viré du Beit HaMidrash. Et cet élève est allé et il a rapporté un enseignement de Rabbi Yochanan ben Brachia sur le sujet de Ve'ahavta l'Rechaka Kamocha. Évidemment, le Kamocha est toujours un peu ambigu. Il a rapporté ça aux Goïms. Il est allé chez les Goïms, il leur a dit, voilà ce que les Juifs disent. Il ne l'a d'ailleurs pas dit de façon correcte non plus. Et quand cet élève, bon, c'est l'acrobate, donc... D'avoir été raconté ces choses-là au Goïm et un peu déformé, ils en ont fait une idole. Tout de suite, il est devenu une idole. Bon. Donc, dès qu'il y a un homme un peu plus grand que la moyenne, après ça, ce serait un élève qui a été viré du Beit HaMidrash de Rabbi Yochanan ben Brachia. Enfin, il était déjà suffisamment plus grand qu'eux, ça les a impressionnés. On voit que, à Prague, par exemple, il y a une espèce de buste du Maharal, enfin, une représentation du Maharal. Les Goïms, ils ont été impressionnés par le Maharal, ils ont fait une statue. Bon, c'est pas une divinité, mais. Ils ont élevé une statue.
Renner décrit avec éloge.
La statue du Maharal,
oui. Ah oui, dans le Zécubérat, voilà.
Ah oui. Non mais on ne dit pas qu'elle est mauvaise, hein, la statue, elle est très bonne. Elle est impressionnante.
De la
famille aujourd'hui, c'est que les familles n'aiment pas le flanc à ça.
Oui.
Et maintenant les photos.
Oui, oui, il y a des photos.
Non, il n'y a pas que les papiers auxquels je pense, il y en a beaucoup.
Bien sûr. Tout à fait, c'est sûr qu'il y a une.
Mais pourquoi est-ce qu'on les sert ça?
Pourquoi on les sert pas?
Bon, pourquoi on les sert, disons, les maisons remplies de photos de. Enfin, je ne sais pas, disons, c'est des actuels.
Oui, il y a beaucoup de choses que.
Bon, enfin, je n'insisterai pas. Même on en fait couvert dans les librairies. Enfin, vous voyez, bon.
Mais non, c'est pas seulement dans les librairies. C'est... Les gosses s'échangent. Trois belles heures rebelles contre deux chazoniches.
Bon.
Donc. Il demande à son fils de lui faire ça. « Veshachavti ima botai, unsatana imi mitzraim, kvartani bekvuratam, vayomer anochi esekit varecha. » Yosef lui répond, « Je ferai ce que, comme tu m'as dit. » Donc c'est, il ne s'est pas contenté de dire oui. Son père lui dit, « Tu feras ça, il aurait, qu'est-ce que nous on aurait répondu, oui. Ou, « Oui, papa, bon. » Mais oui, lui il dit, « Je ferai selon tes paroles. » Et il dit, Anochi, il ne dit pas Ani, Anochi, et c'est Chidvarecha. Alors Yaakov lui dit, Vayome Ishavali, jure-le-moi. Vayishavalo, Vayishtachu Israël al Rosh Hamita. Pourquoi est-ce qu'il se prosterne à la tête du lit? Qu'est-ce que ça veut dire? Vaishtachavu, pardon, Israël. C'est parce que, là en l'occurrence, il s'est prosterné quasiment devant Yosef. Et Rachid dit parce que, quand quelqu'un est dans une phase. Haute, eh bien, tu dois le servir, tu dois lui rendre hommage.
Pour ceux qui disent que quand il a mis la main
sur la hanche, oui.
Ouais, c'est une choix.
C'est une choix, oui, Rachi, il dit comme ça.
Pourquoi il demande de jurer alors si c'est.
Non, c'est ça, quand tu l'as dit, mets la main sous la hanche, c'est la préparation à la choix.
Il a la main dessus.
Ah, il m'a dit prononce. Prononce. Oui, il faut prononcer, jure. Il faut serment. Ça a la forme serment d'abord. Alors, tout le monde sait que par la suite, c'était nécessaire qu'il ait juré. Parce que s'il n'avait pas juré, il aurait été coincé.
Alors, il a déjà juré, il dit Ania essaie qu'il peut la faire.
C'est pas un serment. Non.
Après, il a déjà la main sur la cuisse.
Oui.
Quand il dit ça. Donc,
oui, oui. Non, mais la main sur la cuisse, c'est pas le serment.
Non, mais quand il prononce ces paroles, il a déjà la main sur la cuisse.
Mais cette parole-là n'est pas une parole de choix. Une choix, ça a des dynimes. Une choix, ça implique qu'on utilise le Shem Hashem, le nom divin, et qu'on l'utilise, et qu'on dise, voilà, je ferai la chose, et j'appuie mon dire sur la vérité d'Hachem. Bon, donc ça, c'est ce qu'il a fait avant. Il n'a pas attendu d'être malade pour faire ça. Alors maintenant, on annonce. Maintenant, il devient malade, tombe malade. Et donc, le processus, Jacob, Yosef va venir, etc. Maintenant, ce qu'il faut peut-être ajouter, pourquoi il s'est prosterné à l'Rosh Hamita, à la tête du lit. Ça veut dire, Afach Atzmo Letzad Ashkina. Il s'est tourné du côté de la Shrina. Semble-t-il, il était sur son lit, il s'est tourné de l'autre côté, qui était le côté de la Shrina. Mikanam Rush Ashkina Lemala Mirashotav Shel Chole. De là, la Gemara enseigne que la Shrina, elle est présente au-dessus de la tête du malade. Autre chose, Al Rosh Amita, Sharita Mita Tosh Lema, Abarasha, Shari Yosef Melechaya, Veod, Nishbal Ben Agoyim, Vareu Omed Betsitko. Donc ici, c'est une expression de sa reconnaissance. Il se prosterne devant Hachem, en fait, pour exprimer sa reconnaissance que voilà, Yosef, qui a été vendu, qui est parmi les Goyim, il tient le. Il s'est magnifiquement bien tenu, et il est roi d'Égypte. Pourquoi la Shrina elle n'est pas juste à côté? Pourquoi elle est, disons, au-dessus du malade? Alors, on explique que c'est parce que quand l'homme est moins certain de lui, quand il est incertain de quelqu'un, il se sent très faible, alors la Shekhinah se rapproche de lui. Quelqu'un qui est très sûr de lui, la Shekhinah, d'une certaine manière, elle a quasiment pas de place pour être auprès de lui. C'est ce que Rabbeinu Yonah a dit dans Sha'arei Tshuva. Bal Gaava, un orgueilleux, Nimsa Biyad Yitzro, il est aux mains de son Yetzer Hara, parce qu'Hachem ne l'aide pas, étant donné que ce qu'il fait, c'est une abomination pour Hachem. L'orgueil, c'est une abomination pour Hachem. Le Gaon de Vilna dit que les enfants, ils ont une hashgacha particulière. Parce que les enfants savent qu'ils n'ont pas de force pour eux. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas compter sur eux-mêmes. Quand le Gaon donc explique, donc, quand quelqu'un pense, Kochi Vel Semiadi, il pense, c'est ma force, c'est moi qui l'ai fait, je suis capable de le faire, il est loin de la Shrina. Vekar, Cholim, Shemargishim, Afisat, Kochehem, Kochotehem, les malades qui ressentent qu'ils n'ont plus de force, qui ne croient plus en leur force, en quelque sorte, là, la Shrina est proche d'eux. Bien. Alors, on a dit à Yosef que voilà, ton père est malade. Alors, il a pris ses deux fils avec lui, Menaché et Ephraim, et donc il est allé en direction de là où était à Goshen, probablement là où était Yaakov. Et on a dit à Yaakov, Vayomer, Ine bilcha Yosef ba elecha. Voilà, ton fils Yosef vient vers toi. Vaitrazek Israël Vayeshev al Amita. Il s'est renforcé et il s'est assis dans son lit. Vayomer Yaakov et Yosef. Alors, on nous a passé les salutations probablement. Yaakov a dit à Yosef, Kel Shakai Nira Elai, Veluz, Beretz Knaan, Vaivarechoti. Kel Shakai, c'est un nom divin. C'est même deux noms divins. Il s'est montré à moi, à Luz, en Eretz Kenan, et il m'a béni. Vayomer Elai, et il m'a dit, Ineni mafrecha virbiticha untaticha likalamim. Et il m'a dit, voilà, je vais te multiplier, je vais faire en sorte que tu deviennes nombreux, et tu vas devenir une assemblée de peuples. Venatati et Haaretz Azot, et cette terre de Haaretz Kenan, je la donnerai à tes descendants après toi, en héritage, Achuzat Olam, en héritage éternel. Donc, il lui raconte donc, voilà ce qu'Hachem m'a dit à moi. Et alors là, il fait quelque chose d'incroyable. Ve'ata, et maintenant, Shnei vanecha noladim lecha be'eretz Mitzrayim ad bo'i elecha Mitzrayima lihem. Il fait une opéa sur les fils de Yosef. Il dit voilà, tes deux enfants qui sont nés pendant que tu étais en Égypte, avant que je n'arrive, sont à moi. Et toc. Ephraim et Menaché, qui reviennent de Shimon Yuli. Ephraim et Menaché seront pour moi comme Reuven et Shimon. C'est-à-dire, il est en train de jongler avec les générations. Il est en train de mettre Ephraim et Menaché à la hauteur des oncles, de leurs oncles. Un problème pour Ephraim et Menaché, et un problème pour les oncles aussi. D'abord, en fait, quand il dit Lihem, c'est-à-dire que, voilà, ils seront considérés comme des Shvatim. Et ils sont à moi, parce que le père des Shvatim, c'est moi. Toi, tu n'es pas le père des Shvatim. Donc, tu peux, d'une certaine manière, tu ne peux pas vraiment être le père des Shvatim, le père de ces gens-là, parce qu'ils sont des Shvatim. Ce sont les tribus, et le père des tribus, ben c'est Yaakov, c'est moi. C'est moi.
Il est curieux de voir qu'il prend comme exemple Reuven, qui a un gros problème, puisqu'on ne sait même pas s'il...
Non, il a pris les deux premiers fils. Il a pris les deux premiers fils.
Mais on ne sait pas si ça fait... Enfin, c'est une promotion, si c'est une dégradation de...
A priori, c'est une promotion. D'abord parce que ça permet à Yosef d'avoir deux tribus. Mais c'est-à-dire qu'il est le Bechor. Il le traite comme Bechor.
C'est pas une tribu, il dit quoi.
Qui quoi.
Il dit aussi, toi Yosef, tu ne seras pas une tribu, quoi.
Oui, non, mais tu es remplacé par deux tribus.
Mais c'est pas lui, c'est ses enfants.
Oui, c'est ça. Il dit, voilà, c'est pas possible, il ne peut pas devenir double, Yosef. Mais il se trouve qu'il a deux fils, et il lui dit, tes enfants sont les tribus. C'est intéressant parce que vous savez bien que Yosef, à un moment donné, il a pensé que c'est lui qui aurait les 12 tribus. À un moment donné, il a pensé que son père avait raté, puisque il jugeait que ses frères n'étaient pas à la hauteur, donc il pensait que ses frères ne pouvaient pas être les tribus, et que par conséquent... Son père avait raté son projet. Et que lui, il savait qu'il était porteur de 12 tribus, donc il a pensé, c'est moi qui vais avoir les 12 tribus. Alors, c'est pas complètement faux. Il en a eu deux. Les 12. Il n'a pas eu les autres. Parce que les 10 autres enfants, il les a perdus dans l'histoire de Mme Potiphar. Il a perdu les fameuses 10 gouttes de semences. Dans cette affaire, Et c'est Binyamin qui a quasiment récupéré les fils de Yosef, puisque Binyamin, qui avait 10 fils, leur a donné des noms correspondant aux périodes de vie de Yosef. Il leur a donné des noms qui sont en rapport avec Yosef. En fait. Donc il y a bien 12, mais il n'y en a que 2 qui sont des tribus. Alors, du coup, ce que Yosef pensait, à savoir qu'il allait faire de son père quelqu'un qui ne serait un espèce de couple, il ne serait pas vraiment un patriarche, puisqu'il n'aura pas eu les enfants Shvatim. Il aurait mis au monde Yosef, qui lui va mettre au monde les Shvatim, si le projet s'était déroulé de cette manière-là. Et du coup, maintenant, c'est Yosef lui qui a plus de place. Parce que Yosef, il est père de Shvatim, mais il n'est pas Av. Et il n'est plus Shevet. Donc il a une espèce de nom, No Man's Land, en fait, où il est tout seul de son genre. Aucun de ses frères n'est dans cette situation-là. Comme si tu as voulu mettre ton père dans une situation ambiguë, c'est toi qui vas l'être. Mais tu allais mettre ton père dans une situation ambiguë, mais négative, tandis que toi, cette situation ambiguë, elle n'est pas négative, elle est entièrement positive, c'est tout. Il n'a pas de... Il n'est pas Av, mais à la limite, il est roi. Il est roi d'Égypte, donc il est roi d'Ebné Israël aussi. C'est très étrange, cette situation. Je ne sais pas comment on peut se représenter, quoi. Yaakov, il s'amène et il dit, ces enfants, je les prends. Ils sont à moi. Lihem. Il aurait pu lui dire, je donnerai à tes enfants le statut, tes enfants, mais ils vont devenir comme des Shvatim. Non, Lihem.
En plus, ça change aussi, ils sont plus 12, du coup. Ils sont 13, maintenant.
Ouais, du coup, il va falloir négocier, gérer avec Lévi, qui est une fois dedans, une fois pas dedans. C'est... Voilà, on va s'arrêter là. Mortier.
Bonsoir.
Bonsoir. Qu'est-ce que c'est la blague ?
Non, je ne sais pas. L'ordre inversé. Tout à l'heure, vous demandez pourquoi on met 7 avant les dizaines et avant les centaines, alors que pour ça, on était les centaines. Et il y a un commentaire de Aura Haïm qui parle de ça.
Il dit quoi ?
Comme je vous disais, est-ce que
tu as
Donc la Torah cite d'abord le chiffre le plus élevé. Donc la Torah inverse cet ordre, de sorte que le nombre 47 se trouve placé immédiatement après l'expression des années de sa vie. Pour sous-entendre que les meilleures années de sa vie, au nombre de 47, ont été passées au père Rachel et de Yosef. En plus des 6 premières années de sa vie, encore dénuées de tout souci.
Bien.